DW, le club de l'auditeur.
L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est là qu'est apparu l'homme moderne il y a environ 200 000 ans. Le continent compte près de 2000 ethnies différentes et regroupe un tiers des langues du monde. Une diversité qui s'observe aussi dans les gènes. L'Afrique possède la variété génétique la plus riche qui soit. Pourtant, sur les génomes de plus d'un million de personnes séquencées jusqu'ici, moins de 2% sont africains ou d'ascendance africaine récente. C'est ce que relève le professeur de génétique Ambroise Wonkam dans un article publié cette semaine dans la revue scientifique Nature. D'où le projet de séquencer le génome de 3 millions d'Africains pour mieux comprendre l'origine de certaines maladies et trouver de nouveaux traitements. On en parle avec lui dans cette édition du Club des auditeurs et internautes, animée par Mireille Drone, comme tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h temps universel sur les ondes de la DW. Bienvenue à toutes et à tous. Africa, Africa. Un grand bonjour à Riyad, Dan Keshera en Algérie, John de Lomé au Togo, Alex de Mopti au Mali, Sonia d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Ibrahima de Conakry en Guinée, Cipriano de Yaoundé au Cameroun et Gratien de Kinshasa en RDC. Et puis félicitations à tous ceux qui ont fêté ces derniers jours leur anniversaire, comme Raif de Beyrouth au Liban, Daniel de Bukavu en RDC et Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad.
Bonjour.
Bonjour, c'est le professeur Wonkam ?
Oui, c'est bien moi.
Bonjour. Alors, vous êtes donc le professeur Ambroise Wonkam, vous êtes Camerounais et vous exercez actuellement en Afrique du Sud, entre autres.
Oui, d'abord merci de l'opportunité de discuter certains de nos travaux et de nos idées avec vos auditeurs et de partager certaines idées qui viennent du continent, qui sont probablement portées par ma voix sur ce que nous pensons être les priorités pour le développement de la génétique dans les années qui viennent. Je m'appelle Ambroise Wonkam, je suis médecin de formation, spécialiste en génétique médicale. Je suis Camerounais d'origine et je travaille en Afrique du Sud depuis une dizaine d'années. Donc, je fais 4 choses dans ma vie. La première chose, je fais de la recherche sur les pathologies génétiques, en particulier les pathologies génétiques qui affectent les populations du continent africain. Mm-hmm. La drépanocytose, la génétique de la surdité et la génétique des autres maladies rares. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est l'enseignement. J'enseigne la génétique à l'Université du Cap et dans d'autres universités sur le continent et en dehors du continent. La troisième chose, c'est la clinique. Je continue à voir les patients et les familles avec les pathologies génétiques. Et puis, la dernière chose, c'est l'administration académique. Je suis député doyen adjoint chargé de la recherche pour la faculté de médecine de l'Université du Cap.
Tout un programme. Alors, pour commencer, peut-être, vous pouvez nous dire qu'est-ce que le patrimoine génétique ? Est-ce que c'est l'ensemble des caractéristiques de notre sang ? Comment vous définiriez le patrimoine génétique ?
Disons, si nous considérons la vie comme le fruit d'une bibliothèque qui a été créée depuis l'origine de la vie, on va dire que le patrimoine génétique, c'est comme la bibliothèque de la vie. Et comme une bibliothèque, elle contient des étagères. Ces étagères, nous les appelons les chromosomes, techniquement, comme généticiens. Mm-hmm. Et nous en avons 46 étagères, 23 qui viennent de notre père et 23 qui viennent de notre mère. Dans les étagères, il y a des livres. Et les livres, nous les appelons des gènes. Et si vous voulez, on a à peu près 20 000 paires de gènes. La moitié vient du papa, l'autre moitié vient de la maman. Mm-hmm. Et chacun des gènes, comme n'importe quel livre, donne des instructions ou un message, et ces messages-là se traduisent en activité biologique, c'est-à-dire des protéines qui sont produites, et ces protéines ont une fonction. Donc, on aura un gène, par exemple, pour fabriquer les protéines du sang, qui sont l'hémoglobine, 1 ou 2 gènes, par exemple. Donc, voilà grossièrement ce que nous appelons notre patrimoine génétique. Et ce patrimoine génétique de l'humanité est le même dans tous les hommes, à peu près similaire à 99,99%.
Ah, il n'y a que pratiquement 0,1% qui varie, on va dire, entre l'Amérique du Sud et l'Asie, le pôle Nord et puis l'Afrique, on va dire.
Absolument, c'est 0,01% de différence entre vous et moi. Et ce sont ces 0,01% qui font que les hommes peuvent être différents, peuvent avoir des susceptibilités aux maladies différentes, peuvent répondre différemment s'ils sont exposés à un environnement spécifique. Ils peuvent également avoir des traits différents. Donc, cette différence-là, en fait, c'est, disons, le point d'intérêt que nous, en tant que généticiens, combien nous exploitons pour comprendre l'impact sur la santé et l'impact sur la maladie.
Mmh. Alors, professeur, est-ce que cet ADN, il est toujours le même ou est-ce qu'il évolue au travers des siècles? C'est-à-dire que si on prend quelqu'un, par exemple, du continent africain, est-ce qu'il y a quelques siècles, l'ADN des populations était les mêmes ou avec les mélanges de populations ou sous l'effet de l'environnement, des migrations, tout ça, ce patrimoine génétique, il évolue?
Voilà, c'est vraiment une très bonne question. Ça, c'est le nœud même de toutes les recherches en génétique en réalité. Je pense que vous avez donné dans votre question déjà beaucoup d'éléments de réponse.
Mm-hmm.
La première chose à dire, c'est que nous sommes tous africains. En tant qu'humanité, en tant que famille humaine, on est tous africains. Le premier homme comme nous, Homo sapiens sapiens, s'est développé sur le continent et ensuite a quitté le continent pour populer les autres endroits du monde il y a quelques dizaines de milliers d'années. En général, les conditions qui ont facilité les changements du contenu génétique, il y en a quatre. Le premier, c'est l'environnement.
Oui.
L'environnement, la pression de l'environnement fait que certaines variations que nous avons dans notre gène peuvent être plus fréquentes ou plus rares en fonction de la réponse que le génome veut développer par rapport à l'agression de l'environnement. L'exemple le plus typique, c'est la drépanocytose ou la thalassémie.
Oui.
La drépanocytose ou l'anémie falciforme, c'est une maladie du sang, c'est une maladie de l'hémoglobine qui est très très commune dans tous les endroits du monde où la malaria a été endémique. C'est exactement la même pour la thalassémie. Les deux sont des maladies de l'hémoglobine. La différence, c'est que la drépanocytose, c'est la maladie d'un changement structurel de l'hémoglobine, tandis que les thalassémies, ce sont des changements quantitatifs de l'hémoglobine.
D'accord.
Donc ça, c'est la première condition, la pression, l'environnement chez le jeune homme.
Quand on parle d'environnement, professeur, on parle du climat, on parle de la pollution, qu'est-ce qu'on entend?
Excellent. Donc quand je parle d'environnement, je parle de l'environnement direct. Je parle du climat, je parle de la température, je parle des bactéries, je parle des microbes qui sont dans l'environnement.
C'est ça.
Je parle de la nature du sol sur lequel nous marchons, je parle de la nourriture que nous mangeons. En réalité, l'un des éléments majeurs que nous avons argumenté dans notre papier, c'est que l'un des secrets de la génétique va forcément se trouver sur le continent parce que premièrement, les hommes sont restés très très longtemps sur le continent avant de quitter le continent et c'était seulement une petite proportion qui a quitté le continent. Donc l'immense majorité des variations génétiques de l'humanité se trouvent dans l'ADN des Africains.
Mm-hmm.
La géographie du continent, c'est une géographie qui est étendue sur l'axe nord-sud avec d'immenses variations entre la Méditerranée, le Sahara désertique, la forêt équatoriale jusqu'à une zone semi-tempérée en Afrique du Sud. Et toutes ces variations sont associées à une diversité écologique. Et cette diversité écologique a, au fil des années, mis la pression sur notre génome pendant des millions d'années, qui fait que les variabilités génétiques liées à l'environnement seront encore beaucoup plus grandes sur le continent africain que dans n'importe quel autre continent.
Mm-hmm.
Voilà, la deuxième condition, c'est la migration, bien évidemment. Si on a un changement qui est fréquent dans une zone, et si ces zones-là quittent cette zone et populent une autre région du monde, bien évidemment, la génétique des populations de cette région progressivement contiendra au fil de la mixité génétique d'autres éléments qu'il n'y avait pas antérieurement.
Mmh.
C'est par exemple le cas pour la drépanocytose qui, chez les Brésiliens par exemple, qui sont visiblement, je dirais, blancs, de peau blanche, pendant longtemps ils n'avaient pas la drépanocytose, mais la mixité au fil du temps avec les populations noires venant d'Afrique fait que le taux de gènes, de variants liés à la drépanocytose se trouve aussi bien chez les blancs que chez les noirs au Brésil à ce moment.
Mmh.
Le troisième élément, c'est les conditions géographiques où les gens vivent. Par exemple, si une population reste sur une île pendant très très longtemps, sans qu'il n'y ait des visites d'autres hommes. Au cours de plusieurs milliers d'années, le pool de gènes sur cette île sera à l'origine rien que de quelques pionniers, ou ce que nous appelons l'effet fondateur, c'est-à-dire que le pool de gènes ne sera pas beaucoup varié.
Mm-hmm.
Et ça également, ça rend certaines variations plus fréquentes. Si ces variations génétiques sont liées à une maladie, cette maladie sera plus fréquente dans cette île.
C'est-à-dire la diversité génétique, la multiplication, on va dire, protège d'une certaine façon des maladies, alors que si vos gènes s'appauvrissent parce que vous restez par exemple sur une île, vous êtes plus vulnérable à des maladies, si j'ai bien compris.
Disons pas forcément plus vulnérable, mais vous aurez une proportion de certaines maladies qui sera nettement plus grande que dans d'autres populations.
Mm-hmm.
Parce que ce sera pour le moment des variations pathologie que vous avez hérité d'un ancêtre commun.
Oui.
Et parce que vous n'avez pas mélangé votre gène avec d'autres personnes venant d'ailleurs, d'autres endroits du monde, ce variant-là, ce changement sera nettement plus commun. Et ça s'observe énormément. Par exemple, les populations blanches d'Afrique du Sud, on sait qu'il y a des changements génétiques qui sont nettement plus communs parce que la mixité avec les populations locales, les Khoi et les Fang, où des Africains trouvaient localement, ne s'est pas fait, par exemple, au cours de ces 500 dernières années pour certaines familles, par exemple.
Mm-hmm.
La dernière condition qui change, qui permet que nous ayons des variations différentes, c'est notre comportement social. Par exemple, dans certaines communautés, les mariages hors de la communauté ne sont pas forcément autorisés. Et dans certaines communautés, les mariages à l'intérieur de la famille, par exemple la consanguinité, lorsqu'on peut prendre pour époux et épouse un cousin, sont autorisés. Et tous ces comportements sociaux peuvent augmenter la proportion de certaines pathologies ou de certains variants dans certaines communautés.
Oui.
Par exemple, dans toute la région méditerranéenne, dans les pays arabes, dans les pays de l'Asie moyenne, la consanguinité est permise, ce qui fait que certaines pathologies que nous appelons les pathologies récessives sont nettement plus communes dans ces endroits-là. Certains groupes ethno-linguistiques, par exemple, les populations d'origine juive ashkénaze, par exemple, qui ont gardé beaucoup de mariages endogamiques dans la même communauté également,
oui,
au fil des années, il y a des pathologies qui sont beaucoup plus communes. Ça, c'est les seules quatre conditions majeures qui permettent que nous ayons des variations différentes en fonction des régions et des populations. Donc, pour résumer, l'environnement, c'est numéro un. L'immigration et la mixité, c'est la deuxième.
Mmh.
Géographie.
La géographie.
Voilà,
oui.
L'évolution géographique et dernièrement notre comportement social, la façon dont nous nous marions.
Oui, et quand vous parliez de ces pathologies dues à la consanguinité,
ce
sont différentes pathologies?
Oui, disons, en génétique de manière générale, il y a deux façons d'avoir des problèmes génétiques. Si vous vous souvenez de la librairie, soit on a ce que nous appellerons des pathologies des étagères, ce que nous appelons les maladies chromosomiques. Par exemple, la trisomie 21, c'est une maladie chromosomique.
Voilà.
Et qui est un changement du nombre des étagères. Par exemple, nous avons dit que nous avons 46. Si vous avez 47, ce sera un problème parce qu'il y aura trop d'informations. Si vous avez 45, c'est un autre problème parce qu'il y aura beaucoup moins d'informations. Donc, ces pathologies-là, elles sont transmissibles seulement dans une petite proportion parce qu'elles arrivent souvent, dans l'immense majorité des cas, une seule fois dans la famille, comme par exemple la trisomie 21 qui est beaucoup plus liée à l'âge maternel. Et c'est seulement une petite proportion qui peut revenir dans la famille.
Mm-hmm.
Le deuxième type de pathologie, c'est ce que nous appelons les maladies monogéniques. En d'autres termes, ce sont des changements qui arrivent dans un livre spécifique. Et ces changements-là, par contre, peuvent passer de génération en génération. Dans les pathologies monogéniques, l'exemple le plus typique, par exemple, serait l'albinisme. Dans les populations africaines, vous pouvez voir un couple qui ont bien tous les deux. Ils ont la peau noire, ils ont un enfant albinos qui a une peau blanche.
Oui.
Et c'est là, l'enfant a hérité des deux parents un changement génétique sur des gènes qui conditionnent la couleur de peau et qui fait qu'il a ce défaut de production de mélanine.
Mm-hmm.
L'autre exemple, c'est la drépanocytose, qui est aussi une pathologie récessive. Vous avez besoin de recevoir un variant de votre père et de votre mère pour avoir la maladie.
Mm-hmm.
Il y a d'autres pathologies que nous appelons dominantes. Il suffit que vous ayez un seul variant et vous allez transmettre la maladie, comme l'hypercholestérolémie familiale, par exemple.
Mm-hmm.
Ou alors certains cancers familiaux. Vous vous souvenez d'Angelina Jolie qui avait posé un acte très majeur parce qu'elle avait un variant de prédisposition du cancer du sein.
Oui.
Ce variant, par exemple, est dominant. Donc, si vous l'avez dans une famille, vous avez pour chaque enfant 50% de chances de le transmettre.
Donc, si on le sait, ça permet de prendre les devants, justement, et de parer, en quelque sorte, d'essayer du moins.
Absolument. Si on le sait, ça, premièrement, ça peut changer notre façon de vivre. Ça peut aussi nous amener à demander des actes thérapeutiques ou préventifs. Ça peut nous aider à demander de diagnostics anténatales pour peut-être nous donner des options reproductives.
C'est où Jacques Lérien, conscience, jardin ou fiel. J'attire pas enfrentar realidade. Pour sofredor, Jacques Armacedor. Par bem viver, na página progresso.
Alors professeur, ça fait maintenant 20 ans presque qu'on a commencé le premier séquençage de l'ADN humain. Comment expliquer que moins de 2% des Africains ou d'ascendance africaine ont été étudiés, que leur génome a été séquencé?
Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que si nous regardons le continent africain représente 15% de la population mondiale, mais seulement 5% du produit intérieur brut. Donc techniquement, on peut dire économiquement, le continent africain est pauvre. Ce n'est pas forcément vrai, parce que sur le continent africain, il y a 30% des ressources naturelles.
Oui.
Mais le continent africain n'a pas forcément investi, par exemple, en recherche. L'investissement en recherche est très pauvre. Dans la capacité des universités africaines et des nations africaines à investir sur la recherche en génétique était très pauvre. La deuxième condition, c'est que les instituts de recherche internationales qui financent la recherche dans beaucoup de pays dans le monde n'ont pas forcément donné accès à ces fonds aux chercheurs africains. C'est en train de changer radicalement ces 10 dernières années. La troisième raison, c'est le cadre académique dans le continent africain. Les universités africaines n'ont pas toujours de filière académique de génétique humaine. Mm-hmm. Donc il y a très peu de spécialistes en génétique médicale et en génétique humaine qui peuvent adresser les questions génétiques liées aux populations africaines. Bien évidemment, il y a l'éducation même des populations et des cadres politiques qui prennent des décisions qui n'ont pas été sensibilisés à l'importance de la génétique pour la santé et pour simplement le développement.
Donc vous vous êtes pratiquement lancé dans un projet de séquençage donc du génome de 3 millions d'Africains sur 10 ans. C'est long quand même, relativement 10 ans. Je sais bien que pour un scientifique, c'est rien du tout, mais je veux dire, avant d'arriver à des résultats et de pouvoir en faire quelque chose, ça fait beaucoup de temps et ça veut dire beaucoup de maladies qui restent non explorées, on va dire, sur aussi longtemps.
Et disons, la première chose, c'est de connaître les changements qui ont eu lieu ces 10 dernières années avec des initiatives comme le H3 Africa, qui est pour Human Heredity and Health. C'est un immense projet qui a été financé les 10 dernières années, essentiellement par une collaboration entre le National Institute of Health aux États-Unis, la Fondation Wellcome Trust en Grande-Bretagne et la Société africaine de génétique humaine, dont je suis présentement le président. Mm-hmm. Avec ces trois collaborations, cette initiative a réellement permis ces 10 dernières années de donner suffisamment de fonds, en tout cas plus de 80 millions de dollars investis, pour des chercheurs africains pour commencer de développer des recherches qui posent des questions sur le continent et cherchées par les chercheurs du continent. Mm-hmm. Ce projet arrive à sa fin l'année prochaine. Je pense qu'on est dans une position où on peut oser proposer un projet ambitieux comme celui du TRIMARC, parce qu'on a au minimum un noyau de chercheurs qui sont exposés à la génétique.
TRIMARC, ça veut dire
3 million African Genome. C'est l'acronyme que nous avons proposé pour cette vision.
D'accord.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'immense majorité des chercheurs dans le monde maintenant reconnaissent que la clé du futur de la génomique humaine et médicale dans le monde et dans le génome africain sont secrets dans le génome africain. Il y a quatre raisons pour cela. La première chose, c'est ce que nous avons discuté. Nous sommes tous africains. La deuxième raison, c'est qu'il y a une proportion des variations qui n'a jamais quitté le continent pour lequel nous n'avons aucune idée. Mm-hmm. La troisième raison, c'est que pour les données que nous avons à ce moment, par exemple, si nous prenons les données qui associent les variants génétiques à la maladie, utilisant une technique qu'on appelle Genome-Wide Association Study, il n'y a que 2% des Africains qui ont été étudiés pour ces Genome-Wide Association Study, mais les résultats de ces 2% africains représentent 7% de l'ensemble des résultats positifs de toutes les populations dans le monde. Donc, étudiant les Africains, ça produit 3 fois plus de résultats que si on aurait étudié une autre population.
Oui, c'est donc utile aussi pour les autres ailleurs dans le monde.
Absolument. Et la troisième raison, c'est qu'il y a de plus en plus de données, pas les données venant du continent, ça vient d'Amérique ou d'Europe, qui montrent qu'il y a certains variants qui sont absolument spécifiques des populations africaines, qu'on ne trouve que chez les Africains, et qui sont associés par exemple au diabète, et certains qui sont nettement plus fréquents dans les populations africaines, qui sont associés par exemple à l'hypercholestérolémie ou la réduction du cholestérol chez ces Africains. Mm-hmm. Et l'exploitation de ces variants a produit par exemple récemment un médicament qui est maintenant utilisé par tout le monde entier pour lutter contre l'hypercholestérolémie. Donc, si nous n'avions pas étudié les populations africaines, ces médicaments n'auraient jamais été développés. La troisième raison, raison, c'est que pour les maladies monogéniques, les maladies du livre, comme nous avons dit, qui sont relatives à un seul gène, il est beaucoup plus facile de trouver des nouveaux gènes dans les populations africaines. Par exemple, dans notre étude sur la surdité, dans un seul pays qui est le Ghana, nous avons découvert 6 nouveaux gènes. Et 6 nouveaux gènes, c'est énorme pour une étude qui n'a fait que 2 ans. Et nous faisons cette étude dans 7 autres pays africains. Imaginez le nombre de gènes que nous pouvons découvrir. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités pour nous tous comme humanité de regarder, de découvrir les nouveaux gènes simplement parce qu'il n'y a plus de variations sur le continent. Il n'y a plus de variations dues à l'environnement. Il n'y a plus de variations dues à 300 000 années d'histoire du génome africain sur le continent. Et ces variations n'ont pas du tout été étudiées. Donc, c'est le bon moment d'imaginer un projet ambitieux qui essaye de regarder ces secrets qui sont cachés dans le génome des Africains.
Oui.
Est-ce que 10 ans oui. est long? Non. Si nous regardons le projet du génome humain qui avait séquencé juste quelques personnes, ça a pris à peu près 10 ans également pour qu'on arrive au résultat que nous avons aujourd'hui.
Et donc, les infrastructures nécessaires pour que cette recherche soit effectuée sur le continent sont là, moyennant évidemment le déblocage des fonds nécessaires pour ce faire.
Oui, ce que nous essayons d'argumenter dans cet article, c'est que premièrement, on a un minimum d'infrastructures. Par exemple, le projet Esprit Africa a créé des biobanques en Afrique du Sud, au Nigeria et en Ouganda. On peut commencer le projet avec ces biobanques régionales et peut-être créer d'autres dans au nord de l'Afrique, par exemple, pour la population maghrébine. Créer d'autres peut-être beaucoup plus au centre du continent pour les populations d'Afrique centrale. Donc, il y a une infrastructure minimale. Il y a d'autres infrastructures qu'il faut absolument créer. Par exemple, des infrastructures pour stocker les données génétiques.
Mm-hmm.
Parce que cela demande énormément de capacités informatiques pour lesquelles le continent n'est pas complètement équipé.
Mm-hmm.
Il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui sont relativement nantis. Et même nous qui travaillons en génétique ici, nous savons que nous sommes très loin de ce que nous devons avoir en termes de capacité d'analyse et de stockage des données. Et à chaque fois qu'on analyse des données, on crée d'autres données dont la capacité devient de plus en plus demandante. Donc, ces capacités d'infrastructure doivent être créées. Les gouvernements africains doivent, si possible, créer des centres d'excellence pour la formation en génétique dans les universités africaines. On peut imaginer des centres régionaux pour ne pas créer le poids sur un seul pays. Les gouvernements africains doivent également faciliter la circulation des chercheurs à l'intérieur du continent et la circulation des chercheurs qui viennent sur le continent.
Oui.
Les gouvernements doivent prendre des dispositions également pour faciliter que des accords privés-publics soient possibles, parce que même si nous trouvons des variants ou des informations qui peuvent être utilisées en clinique, en général, le développement de l'outil diagnostique, comme ça s'est fait par exemple pour le vaccin du COVID-19, se fait plus facilement si on a une coopération avec le secteur privé. C'est bien évidemment ceux qui sont dans l'académie, comme nous autres, nous devons accélérer la formation du nombre et de la qualité du personnel et en génétique et en bioinformatique et en analyse et en génétique counseling et développer également des lois, des conditions éthiques qui permettent le partage des données qui respectent notre propre autonomie.
Voilà, ce qui me permet de vous poser une question encore, professeur Wangkam. Vous pensez donc que par le séquençage du génome, on peut stimuler des cellules et ainsi améliorer les défenses immunitaires pour éradiquer certaines maladies et même donc sauver des vies. Mais alors, est-ce que vous adaptez du coup, fort de vos connaissances de ce génome, des traitements ou est-ce que vous modifiez certains gènes, ce qui pose la question éthique justement?
Disons que la première connaissance de toute maladie, c'est de comprendre comment elle se développe. L'une des clés, c'est souvent de comprendre les variations génétiques qui créent la maladie elle-même. Et ensuite, l'approche thérapeutique peut être soit de modifier le produit de ces variations, c'est-à-dire d'apporter une protéine nouvelle, comme par exemple la transfusion qui se fait par exemple dans le cas de la drépanocytose, ou d'aller corriger la mutation, c'est ce que nous appelons la thérapie génique, ou de ne même pas rajouter un nouveau gène, mais de changer la faute, ce qui s'appelle le gene editing, qui est l'approche la plus novatrice. Mais quelle que soit la modalité thérapeutique que l'on choisit, l'objectif majeur premièrement, c'est de comprendre quelle est l'étendue des variations qui sont responsables des traits génétiques et des maladies génétiques.
Oui, mais alors si vous arrivez à résoudre un problème de santé, tout le monde va être content, mais la possibilité même de pouvoir modifier un gène, est-ce que ça pose pas des questions quand même?
Mais disons que le projet lui-même, dans son développement, ne sera pas forcément de regarder cet aspect thérapeutique, mais ce sera surtout de comprendre comment notre génome est constitué. Bon, je comprends votre question qui est relative à la question éthique des thérapies qui utilisent la modification des gènes. En général, il y a un accord entre les éthiciens et les généticiens, c'est que les thérapies génétiques géniques qui doivent se faire maintenant ne peuvent pas se faire sur les cellules germinales. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'elles soient transmises de génération en génération. Mmh. Mais elles peuvent se faire sur des cellules que nous appelons somatiques. C'est-à-dire que vous changez le gène chez l'individu, mais ça reste chez l'individu. Il ne peut pas la transmettre à sa descendance.
Mmh.
Parce que du moment où on le change au niveau germinal, ça veut dire qu'on modifie le patrimoine de l'humanité de génération en génération. Et je dirais que la pathologie pour laquelle je pense il faudrait qu'une solution thérapeutique soit très vite trouvée, c'est une pathologie comme la drépanocytose.
Oui, ça fait mourir les enfants.
Absolument, ça peut faire mourir les enfants. Et nous pensons que c'est une pathologie qui va bénéficier beaucoup de la recherche génétique, parce qu'une meilleure compréhension de comment les complications arrivent peut nous permettre de développer d'autres traitements. L'idée aussi, c'est de voir est-ce qu'on peut développer des techniques qui véhiculent cette thérapeutique avec le moins de risques possible, et chez la majorité, et peut-être même chez les adultes.
Très bien. Mais je vous remercie infiniment, professeur Ambroise Wongkam, et puis surtout, bien, beaucoup de succès dans votre recherche. J'espère que vous aurez les fonds disponibles et tous les moyens à votre disposition.
En tout cas, je vous remercie, Mireille, de l'opportunité. Je remercie les auditeurs de nous écouter à ce moment, et nous espérons que beaucoup de volonté sur le continent et en dehors du continent écouteront l'appel que nous avons lancé de reculer les frontières de la génétique médecine globale en essayant de craquer les secrets que détiennent le génome du continent africain.
Très bien. Merci à vous, professeur. Au revoir.
Au revoir. Africa, 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 Africa,
Africa, Africa, Africa. Voilà, n'hésitez pas à réagir à cette émission. Envoyez-moi par exemple un mail. Mon adresse, c'est mireille.drone@dw.com. Notez que vous pouvez retrouver cette émission, comme tous les programmes du service francophone de la DW, sur notre site internet. Notre adresse, dw.com/français. Vous y trouverez aussi les liens vers nos pages Facebook et Twitter. À très bientôt de vos nouvelles, j'espère. Merci de votre fidélité et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. Africa, 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 Africa minha. Africa nossa. Africa, 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 berço de mundo, continente fecundo. Tirima no acampo tambora, marwazo onye venuga. Torara mamuru nyararo, nemuniriro. Tikava nero vemo, netariro. Other Africa will be happy one day. Africa, 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 Africa.